Nous allons aller au Togo et au Bénin pour nous intéresser à la santé des mangroves. C'est un écosystème tout à fait particulier que l'on retrouve sur les côtes dans les régions tropicales. Un écosystème très riche, mais en danger, parce que la mer avance, parce que les populations locales coupent ces mangroves pour en faire du feu. Les scientifiques s'en inquiètent et tentent de sensibiliser les populations à la préservation de ces mangroves. C'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage de Christophe Bernard et Françoise Walmack.
Les mangroves recouvrent 150 000 km² sur la planète Terre. Cette végétation dense pousse là où les fleuves rencontrent la mer et où l'eau salée se mélange à l'eau douce. C'est un écosystème riche et délicat. Les palétuviers plongent leurs racines dans l'eau, on dirait des échasses surmontées d'une canopée de végétation qui peut culminer à 8 mètres de hauteur. Arkansia est malgache, elle travaille pour Louvain Coopération. Elle est venue de Madagascar au Togo pour rencontrer des collègues scientifiques européens et africains, soucieux comme elle de sauver les mangroves. À Madagascar, les habitants des côtes commencent à mesurer l'importance de cet écosystème et ils se rendent compte que le climat change.
Pour les pêcheurs, pour les habitants qui sont au fin fond de la brousse, comme on dirait en Belgique et en Europe, le réchauffement climatique, ce n'est pas une notion intellectuellement qu'ils pourraient exprimer ainsi, mais les effets au quotidien sont, par exemple, il y a quelques années, un pêcheur était capable de vous dire à quel moment la marée était haute ou basse et donc organisait son itinéraire. Il faut savoir, par exemple, qu'il y a des villages qui sont accessibles uniquement par l'eau. Donc il n'y a pas de route, etc. Il n'y a pas forcément d'infrastructure non plus. Or aujourd'hui, c'est très difficile de prévoir à l'heure près à quel moment la marée va monter ou va descendre. Donc organiser ses déplacements par rapport à ça, oui, ça c'est un exemple concret pour eux. La pluie aussi, il pleut moins. Ça c'est une évidence ces dernières années. On a des périodes de sécheresse très marquées et ça veut dire qu'on a l'alimentation en eau douce des fleuves qui vont vers les embouchures. C'est aussi un fait marquant. Donc ils ne pourront pas dire intellectuellement le réchauffement, changement climatique. En revanche, oui, il y a quelque chose qui a changé dans la nature et qui impacte ce milieu dans lequel ils vivent, qu'est la mangrove.
Nous voici au sud-est du Togo. C'est là que le fleuve Mono se jette dans l'océan Atlantique. Cette rencontre de l'océan avec le fleuve a créé un système de lagunes où l'eau salée pénètre dans les terres. Dans le temps, une forêt dense de palétuviers recouvrait la lagune, mais la présence de l'homme a modifié ce paysage idyllique. En amont du fleuve, un barrage provoque des inondations régulières qui déracinent les jeunes palétuviers. Tout le front de mer est construit du béton et des hôtels vides. Les berges s'érodent et la mer avance, 15 mètres par an en moyenne. John travaille pour une association de défense de l'environnement.
Le système est fragile tel qu'il y a plusieurs villages autour de ce système et la démographie continue toujours à augmenter. Donc il faut arriver à amener cette population eux-mêmes à savoir que cette ressource-là, il faut la conserver pour leur avenir. Si vous voulez interroger même les populations, avant, les 5 minutes suffisent pour aller sortir des poissons de l'eau, pour venir manger. Mais aujourd'hui, tu peux aller passer 3 heures sur l'eau, tu reviens avec quelques miettes de poissons.
Il n'y a plus de poissons.
Il n'y a plus de poissons en tant que tel. Nous voyons que nos forêts ont diminué en termes de superficie. Parce que les gens doivent construire. Ils ont besoin de terre pour construire. Et si tous les jours, il faut s'accaparer du sol de la forêt pour construire, qu'est-ce qu'on va devenir après ?
Les lacs se vident de leurs poissons, la forêt rétrécit. Au bord du fleuve Mono, une usine de traitement de phosphate rejette les boues contaminées directement dans la lagune. Walker Morris travaille pour une ONG togolaise.
Normalement, lorsqu'il lave, il devait avoir un système de rétention et empêcher les déchets pour rentrer dans la mer. Eux, ils ne l'ont pas fait, ils ont fait des versoirs directs sur la mer. Donc tous les déchets sont versés directement dans la mer.
Le paysage est composé de lagunes et d'herbes sauvages. Quelques bouquets de mangroves surnagent héroïquement. La plupart ont été coupés pour en faire du bois de chauffe pour la cuisine.
Donc je vous ai amené ici pour que vous voyez un peu le début du chenal.
Donc les pieds dans l'eau et entourés d'une végétation, c'est quoi qui nous entoure ?
La végétation qui nous entoure, c'est les rhizophora, la première espèce de mangrove.
Est-ce que ces plantes sont en bonne santé ?
Aujourd'hui, je dirais que plus ou moins, ils sont en bonne santé parce qu'il y a toujours la pression des hommes. À un moment donné, celui qui a besoin de l'argent, Il vient, il coupe, il va aller vendre au marché, juste pour trouver à manger à la maison. Il y a pas mal d'associations qui militent pour préserver cette végétation.
Comme les déversements de phosphates, on a vu l'usine la plus haut, ça doit affecter quand même ces mangroves.
Les débris de ces phosphates se collent sur les racines du rhizophora. Donc là, quand les poissons aussi veulent se reproduire, et ils mangent ça, il y a certains poissons qui meurent. Donc c'est ça qui a fait que la plus grande partie de la perte des poissons, c'est dû à ces débris de phosphates.
Les mangroves, ce sont des nurseries de poissons. Des bernards ermites s'y cachent, des coquillages, des huîtres et des moules y éclosent. Nous voici les pieds dans l'eau avec Cédric Vermeulen, professeur à Liège. Il nous fait remarquer d'étranges petits poissons. Leurs yeux sont à fleur d'eau. Ils se déplacent sur leurs nageoires antérieures comme des petites pattes.
Mais on peut observer là le périophthalme, qui est un poisson tout à fait extraordinaire puisqu'il peut sortir de l'eau et marcher avec ses nageoires sur la boue. Et donc on peut le voir marcher là sur des débris végétaux, mais il sort petit à petit de l'eau, il arrive sur la boue, il se faufile entre les racines échasses. Il est appelé comme ça parce qu'il a des gros yeux globuleux proéminents à l'avant qui lui permettent de regarder hors de l'eau en se mettant à ras de l'eau. Et puis il sort, alors il ne sait pas s'éloigner à plus d'un mètre du bord, mais il sait clairement sortir de l'eau. On présume que c'est ce que nos ancêtres ont fait, quand les poissons ont commencé à sortir petit à petit de l'eau, c'est ce que veut la théorie de l'évolution.
Et c'est un poisson qu'on trouve typiquement dans ces mangroves.
Ah, c'est typiquement dans toutes les mangroves que j'ai vues, que c'était au Sénégal, au Gabon et maintenant ici au Togo. On en a vu à Madagascar. Il y a des espèces de périophthalmes. Il est voilà. Regarde, ils se courent l'un après l'autre. Ils sont vraiment rigolos. Hein. Donc les plus gros ont une dizaine de centimètres. J'ai l'impression qu'il est relativement tolérant à des hauts niveaux de pollution aussi. Mmh. Parce que je l'ai vu à la sortie de toute petite rivière assez polluée qui se versait dans la mer à Libreville, par exemple, et il y en avait quand même encore. Donc c'est un poisson qui a l'air de supporter une certaine résilience, comme on dit maintenant, à la pollution.
Donc malgré les phosphates, ça va, il survit, tient le coup.
Pour l'instant.
Les mangroves sont un formidable filtre aussi.
Thierry de Coster travaille pour ULB Coopération.
Donc ça capture et dans les sols, etc., il y a une dégradation des composants chimiques par la microbiologie, par toutes sortes de processus. Et donc ça filtre, l'eau est meilleure en aval qu'en amont, ça c'est une chose. Mais maintenant si on les dégrade, toutes les microparticules, etc., qui étaient séquestrées dans les sols, peuvent se relâcher aussi. Mmh. Même chose pour le carbone. Tout ce qui est bois, la biomasse aérienne, c'est de la séquestration de carbone. Mais dans le sol, il y a des mètres et des mètres de carbone qui se sont sédimentés et qui sont placés là. Maintenant, si on détruit la mangrove pour l'urbanisation, etc., il y aura moins de séquestration, mais en plus, il y aura un dégagement de carbone extraordinaire.
Et quand je vais en mission, souvent, pour voir les projets que...
Dominique Perrin est envoyé par l'AWAC, l'Agence wallonne pour l'air et le climat, qui soutient activement le sauvetage des mangroves dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest.
Nous sommes ici dans un projet qui est financé par la Wallonie et l'Agence wallonne de l'air et du climat. Il faut savoir qu'on s'inscrit ici dans la suite de l'accord de Paris. L'accord de Paris qui, en quelques mots, assume la responsabilité qu'ont les pays du Nord par rapport à l'impact du changement climatique sur les pays du Sud.
En quoi est-ce que la Wallonie se sent responsable et aide les pays du Sud à lutter contre ce réchauffement climatique qui les affecte très très fort ?
Cette responsabilité, elle est clairement assumée. Je pense qu'il faut simplement se rendre compte que notre atmosphère se remplit de dioxyde de carbone, le CO2, le principal gaz à effet de serre, depuis le début de l'ère industrielle. Et donc la Wallonie a été par le passé la quatrième région la plus riche du monde. Et donc clairement le réchauffement climatique, la responsabilité qu'a la Wallonie, elle est beaucoup plus que ses seules émissions actuelles. Cette responsabilité historique, c'est un élément d'ailleurs totalement déterminant dans les négociations internationales sur le changement climatique. Si vous voulez, c'est comme si vous rentrez dans un bistrot, mais il faut d'abord régler l'ardoise, avant peut-être de pouvoir que passer une nouvelle commande.
Et très concrètement, qu'est-ce que vous proposez ici ? Vous parlez de boîte à outils, ça consiste en quoi pour les gens ici ?
Vous savez, quand on voit cet écosystème mangrove, et on l'a constaté tout au long de notre visite de terrain, nous sommes très très dépendants, très en lien avec les populations locales. Or, les intérêts des populations locales sont multiples et variés par rapport aux mangroves. C'est par exemple la possibilité de pouvoir donner une exploitation nouvelle à ces mangroves. Par exemple, pour les cultures d'huîtres, eh bien les élevages de crabes. Développer ces affectations particulières des mangroves permet aux populations locales d'en vivre et de préserver, de continuer leur prise en compte de l'importance de ces écosystèmes.
Dans le passé, un épais manteau vert de palétuvier recouvrait toute la surface lagunaire. Walka Maurice s'en souvient.
il y avait une grande forêt de mangroves composée de toutes ces espèces de Rhizophora, Avicennia, Deprano et Conotapus. Ben, petit à petit, la zone commence à se dégrader, à se dégrader, à se dégrader. Et aujourd'hui, c'est là où nous en sommes. On a seulement quelques touffes de Rhizophora. La population aussi ne lui laisse pas le temps. Et les rejets de phosphate aussi ne lui laissent pas le temps. Si vous voyez à vue d'œil même les racines chasses, vous allez constater que ils sont dans des difficultés pour pousser. D'ici 2025, on ne sait pas exactement ce qui va se passer.
Aujourd'hui, les villageois évitent de couper les mangroves et tentent même de reboiser. Mais c'est une course contre la montre puisque la mer avance. Cédric Vermeulen.
Alors, ce qui est très paradoxal, c'est que notamment la mer avance parce qu'il n'y a plus de mangroves. Hein, la mangrove, d'une manière générale, servait jadis de tampon entre la mer et la terre, à tel point que toute la côte d'Afrique de l'Ouest était considérée à certains endroits par les Occidentaux vers 1500, 1600, 1700, impénétrable parce qu'il y avait des forêts de mangroves qui empêchaient l'accès à la terre. C'était des zones réputées très malsaines et impénétrables. Bon, là, on ne voit pas où est le côté impénétrable. Il n'y a tout simplement plus.
Effectivement, la mer est en train de s'avancer. Aujourd'hui, toutes les maisons qui sont là-bas sont parties. Donc là, ça démontre que dans 5 ans, ceux qui sont encore là-bas, si rien n'est fait, ils ne seront plus là.
C'est un village qui était englouti.
Oui, oui. Normalement, chaque année, c'est 15 mètres. 15 mètres de chaque année, la mer avance.
Amé pour moi, divisé, posé à goût de tchona. When we don't have a door, we put me a dozen to one. Yem a cow divide, pose a good day to na.
À 2 heures de route de Lomé commence le Bénin. En 2014, une réserve naturelle a été créée dans cette zone transfrontalière, près de 350 000 hectares où vivent 2 millions d'habitants. Cette zone est reconnue patrimoine mondial par l'UNESCO. L'aire de la Bouche du Roi est gérée par l'ONG Eco-Bénin qui essaie de l'ouvrir à un écotourisme responsable. Une activité qui peut apporter des ressources aux populations tout en les sensibilisant à la beauté de leur environnement. La réserve protégée en tant que telle couvre environ 10 000 hectares. Ce sont des lagunes peuplées de mangroves luxuriantes et où vit une faune incroyable, des crabes, des tortues géantes, des lamantins, des hippopotames et une foule d'oiseaux migrateurs. Nous partons à la découverte de ces zones lacustres à bord d'une barque à moteur, accompagnée de Gauthier et Disney Nakobi d'Eco-Bénin.
Vous êtes précisément dans la commune de Krampopo, qui est une commune constituée à 90% de zones humides. Et d'ici, il y a l'île aux oiseaux, qui est juste en face là. Et actuellement, c'est la période où les oiseaux sont allés nicher ailleurs. Ce site-là abrite environ 6 à 7 espèces d'oiseaux. À partir de la période de mai, vous allez voir une couverture toute blanche. C'est les aigrettes qui font ça et les hérons qui couvrent vraiment ce site-là parce que c'est leur habitat en fait. Vous les voyez en milliers là et ça change le paysage en blanc et c'est vraiment beau à voir. Au-delà de ça, on a plein d'autres espèces. On a vu tout à l'heure le matin chasseur à tête grise. Les aigrettes adoisées également, c'est leur périmètre de nidification. Et si vous faites un peu attention, on entend beaucoup de cris d'oiseaux quand même. Donc il y a des oisillons qui sont vraiment à l'intérieur là. Voilà.
Pour protéger les mangroves, des prêtres vaudous ont été appelés à la rescousse par Eco-Bénin. Certaines zones ont été sacralisées, on ne peut plus y toucher.
En entrant dans le village d'Azincor, nous avons des sites où nous avons fait des sacralisations, où on met une divinité qui est le Zangweto, qui est vraiment sacré pour les populations là, ici, et qui réglemente les activités au niveau de tout le territoire. Mais spécifiquement dans les mangroves, cette divinité interdit la coupe de ces mangroves-là dans les périmètres où c'est implanté.
Cette divinité, crainte et respectée par les Béninois, est désormais la gardienne de plusieurs îlots sacrés où il est interdit de pénétrer. Cette divinité se présente comme une sorte de cône de paille colorée qui se déplace très vite. Quand on retourne cette sorte de meule de foin, elle semble vide et un serpent s'en échappe.
La divinité fait une première sortie dans le village pour dire « Bon voilà, vous m'avez sollicité, qu'est-ce que vous voulez de moi ?» Et quand la divinité sort et demande ça, les grands prêtres disent « Bon voilà, nous voudrons que tu sois gardien également de ces ressources-là que vous voyez, les mangroves, parce que tu sais que les mangroves pour nous, c'est là où les poissons vont se cacher et juste à côté, on peut avoir des gros poissons et ainsi de suite. Tu sais que cette zone-là doit être une zone vivière pour nous. Les femmes, les enfants, les vieux, les jeunes, tout le monde sort. Et la divinité, après plusieurs danses, rituels, tout ça, communique à tout le village. Bon, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de mettre pied dans telle surface pour aller couper du bois, pour aller ramasser n'importe quoi. À partir d'aujourd'hui, ce périmètre-là est sous ma protection. Et donc, tout le monde sort. Avec les pirogues, tout le monde chante, des tam-tams, les jeunes sont là. Et le gardien vient implanter un symbole pour dire, voilà, à partir de là, tout le monde reconnaît que je suis présent dans cet écosystème.
En cas d'infraction, les punitions sont sévères.
On peut vous expulser du village. Et ça va jusqu'à... Parfois, on peut vous chicoter. Donc, c'est sévère. On peut vous frapper avec de la chicotte, avec différents types de lanières.
Nous arrivons sur l'île aux sels. Sur cette île, les femmes recueillent le sable, elles le lavent à l'eau, puis récupèrent cette eau salée qu'elles font bouillir pendant des heures pour en extraire le sel. Un or blanc apprécié dans toute la sous-région. Le hic, c'est que ces femmes utilisaient du bois de mangrove pour faire bouillir la marmite. Elles essayent à présent de trouver un autre combustible.
Elles utilisaient la mangrove. Le a dit maintenant de ne plus utiliser, couper la mangrove. Donc elles s'abattent uniquement sur l'arbre qu'on appelle potin. Mais ça ne leur suffit pas et elles se demandent comment elles vont faire.
Et vous savez pourquoi on vous demande ou vous interdit de couper la mangrove ?
On leur a expliqué que c'est la mangrove qui permet que les poissons restent dans l'eau. Et ça empêche l'ensablement, que la rivière soit bourrée de sable, quoi.
Nous poursuivons notre périple vers un petit village de pêcheurs. Nous y embarquons un vieux monsieur en t-shirt rouge et bottes de caoutchouc.
Ici, c'est M. Viho Dosu. C'est votre frère qui préside une association dénommée Dupo. C'est-à-dire manger et penser à l'avenir. Le nom, c'est local, mais c'est l'explication. On est censé de préserver les biens publics mondiaux, particulièrement la biodiversité. Alors, au nom de l'association, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci d'avoir pensé à nous. Merci d'avoir partagé des heures avec nous. Bon séjour dans notre site. Merci.
Avec les habitants des 19 villages alentours, M. Wiodosu replante et reboise les mangroves. Il nous emmène dans sa pépinière à ciel ouvert.
Alors, ce que vous êtes en train de voir là-bas, ce sont nos œuvres. Auparavant, on ne comprenait pas le sens des mangroves. Mais à travers une formation, à travers Eco-Bénin, on a compris que nous sommes en train de nous tuer nous-mêmes. Car ces palétuviers sont censés de nous guérir. Alors, dans l'association, on a pris l'initiative. C'est ainsi que notre objectif est de protéger, sauvegarder les mangroves. Ainsi donc, on a procédé à la pépinerie. On a fait cela, ça fait au moins 7 voire 8 mois, c'est ce que cela a donné.
Président, est-ce que vous avez eu du mal à convaincre les gens de votre village de s'associer à vous pour planter tous ces petits arbres-là ?
Au début, c'était difficile. Mais aujourd'hui, là, il a une compréhension sympathique. De telle façon que même quand je décide aujourd'hui qu'on va faire reboisement, là, c'est une joie. On a compris que c'est nécessaire de vivre dans de tels beaux joyeux.
reboiser, replanter les palétuviers, sauver les mangroves, c'est une course de vitesse, que ce soit en Afrique, en Asie ou ailleurs. À Madagascar, les populations qui habitent les mangroves ont compris. Nous retrouvons Arkansia de Louvain Développement.
Les communautés villageoises aujourd'hui d'elles-mêmes organisent des actions collectives de reboisement de mangroves. Concrètement, les palétuviers, ça a des propagules, c'est leurs fruits. Ces propagules-là naturellement tombent, elles vont finir par germer et ça va pousser. Au pied d'un palétuvier, vous allez avoir plusieurs propagules. C'est comme des pépinières naturelles, comment les prendre et les replanter ailleurs. Ça, c'est vraiment encourageant parce qu'il y a beaucoup de villages, maintenant c'est un jeu d'enfants. Les enfants, ça rentre dans leur mœurs d'arriver à planter, reboiser, restaurer, contribuer d'elles-mêmes à la préservation de cela.